France Inter, franceinter.com.
Richelieu avait sur la même table son bréviaire et Machiavel. L'abbé de Choisy. Ans d'histoire. À la tête du gouvernement de Louis XIII pendant près de 20 ans, cet ecclésiastique devenu chef du conseil du roi en 1624 est un des hommes qui ont le plus profondément marqué l'histoire de France. Pénétré d'une conception exigeante de l'État qu'il plaçait au-dessus de tout, « je n'ai eu d'autres ennemis que ceux de l'État », disait-il, Richelieu s'est débarrassé de tous ceux qui, selon lui, menaçaient son autorité et paralysaient son action. Si brutalement qu'on a gardé de lui que le souvenir du personnage fourbe, cynique, cruel et machiavélique des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, en oubliant parfois l'œuvre considérable de ce cardinal qui a porté la France au premier rang des puissances européennes, a jeté les bases de son empire colonial, créé les premiers journaux français et l'Académie française. Un homme dont la puissance de travail et la culture avaient été déjà remarquées par Henri IV lorsqu'en 1606, ce jeune aristocrate de 21 ans était devenu évêque.
Quel est votre nom, Armand Duplessis, duc de Richelieu? Quels évêchés sont-ils actuellement sans titulaire?
Celui de Luçon,
sire. Vous êtes évêque de Luçon. Messieurs, je viens de causer avec l'un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais vu de ma vie.
Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Michelon un petit livre, Richelieu, la puissance de gouverner. Alors ce n'est pas une biographie de Richelieu, mais une réflexion sur les grands principes qui ont inspiré sa politique et son action, et d'abord ce culte de l'État au sommet duquel Richelieu s'est trouvé, plus puissant même d'ailleurs que le roi de France, alors qu'il n'était que son principal ministre, comme on disait à l'époque, premier ministre.
À la fois très puissant et en même temps, c'est vrai, à la merci d'un retournement de caractère du roi, c'est-à-dire qu'il a à la fois affirmé la puissance de l'État comme une entité qui est l'incarnation, la projection de la monarchie, et qu'en même temps, finalement, ce pouvoir était à la fois immense et très fragile, puisqu'il suffisait d'une disgrâce, comme le risque s'en est présenté à plusieurs reprises, pour que Richelieu soit précipité de la roche tarpéienne.
Alors aujourd'hui, on serait évidemment surpris de voir un cardinal Premier ministre, et même d'ailleurs, on l'a entendu, un jeune homme de 21 ans devenir évêque. Alors il était évêque de Luçon, c'est une dignité en réalité qui vient de sa famille, plus que de ses convictions religieuses. Au fond, il était destiné au métier des armes, Richelieu.
Oui, il se voyait plutôt dans le métier des armes, et puis les circonstances ont fait qu'il est devenu évêque, mais en réalité, il a été, contrairement à d'autres qui se sont trouvés dans la même situation dans l'histoire de France, sous l'Ancien Régime, il a été un véritable prêtre et un homme qui priait, qui disait la messe, qui avait une foi véritablement intense. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup rétabli par l'histoire par rapport à une tradition, justement, qui est celle de Dumas et qui met plutôt en avant l'homme cynique et manipulateur.
Machiavélique, hein ? Vous dites machiavélien, vous ?
Machiavélien,
grand lecteur de Machiavel, il l'était.
Oui, comme Jean Giono, vous savez, c'est-à-dire que Machiavel est un penseur politique, et on peut dire machiavélien dans la mesure où il s'est intéressé aux mécanismes du pouvoir tel que les décrivait Machiavel, mais pas machiavélique, qui est une sorte d'interprétation péjorative de la pensée de Machiavel et qui tout de suite nous entraîne vers des choses obscures, la raison d'État, qui finalement sont assez éloignées de Richelieu.
Est-ce que ces activités religieuses ont inspiré sa politique? Vous dites que la pensée politique de Richelieu est issue directement de sa pensée théologique.
Oui, parce qu'il faisait un parallèle très net entre les deux. Dieu... Le domaine du divin et le domaine de la perfection, autant il considérait que la politique, le pouvoir humain, est le domaine de l'imperfection. Et il savait que si le vrai royaume n'est pas sur terre. Il savait que le royaume humain que devait porter le roi de France était le lieu de l'imperfection. Il savait que Louis XIII était un homme, qu'il était imparfait. Et finalement, toute la carrière de Richelieu, c'est ça, c'est la politique, c'est l'art, c'est l'art de traiter la faiblesse de l'homme et d'essayer de faire avec, si j'ose dire, pour parler un peu trivialement.
Alors, c'est aussi un destin extraordinaire. Il se fait remarquer aux derniers, d'ailleurs, états généraux qui se réunissent en 1614. Il représente le clergé, il fait le dernier discours, qu'il l'écoute, qu'il l'entend. Marie de Médicis, qui gouverne la France, puisque son mari Henri IV est mort en 1610. Et c'est avec elle, ou grâce à elle, par son entremise, que Richelieu va gravir tous les échelons du pouvoir jusqu'au sommet, en devenant auprès de Louis XIII l'homme le plus puissant de France, l'ennemi juré, on le sait, des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, dont chacun sait qu'ils étaient quatre.
Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice.
Justice? Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs.
Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes.
Diantre! Une épidémie?
Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires.
Combien étaient-ils donc?
Trois.
Et il en reste?
Quatre.
Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, éminence.
J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, permettez-moi de me retirer.
Et c'était un extrait des Trois Mousquetaires de Bernard Borderie, d'après, bien sûr, Alexandre Dumas, qui a donné à Richelieu une réputation assez détestable. Cela dit, cette scène est assez juste. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu un édit contre les duels demandés par Richelieu. Mais comment expliquer cet ascendant que Richelieu a pu avoir sur Louis XIII? Et comment Louis XIII a-t-il pu ainsi déléguer ses pouvoirs à Richelieu?
Je crois que c'est la rencontre d'abord de deux caractères très religieux tous les deux, parce que Louis XIII était un caractère religieux. Et je crois que Louis XIII fait partie de ces personnages de l'histoire de France qui ont compris, notamment de ces monarques, les grands monarques, qui ont compris qu'ils incarnaient quelque chose qui les dépassait, qui dépassait leur petite personne. Il savait lui-même qu'il était exposé aux faiblesses, et puis jusqu'à la fin de sa vie, ça sera très net avec l'affaire Saint-Marc. Et donc, il savait que Richelieu était nécessaire, et il n'avait pas à l'aimer. C'est une manie très contemporaine de penser qu'en politique, il faut être aimé. Il pensait qu'il lui fallait un Premier ministre qui soit respecté, qui gouverne et qui restaure surtout la monarchie dans ses prérogatives, dans son autorité en Europe, à l'intérieur de la France. Donc, c'était typiquement l'homme qui sait qu'il incarne quelque chose et qui va au-delà de sa petite personne.
Et puis alors surtout que Richelieu est lui-même pénétré de l'importance que peut avoir l'autorité du roi. Pour lui, le roi, c'est au fond le garant de quelque chose qui est très important pour Richelieu, c'est-à-dire l'unité de l'État.
Oui, l'unité qui a été mise à mal pendant plusieurs décennies par les guerres de religion, dont Richelieu, enfant, a vécu l'intensité. Et c'est vrai que Richelieu fait partie de ces grands personnages de l'histoire, et lorsqu'il grandit, qu'il devient adulte, c'est quelque chose qui est très marquant, qui est obsédé par l'unité, unité religieuse, unité politique. Il y a un principe d'unité qui est la personne du roi, et donc il faut restaurer l'autorité du roi et à l'intérieur du royaume et à l'extérieur aussi.
Alors une autorité qui est contestée justement par une classe sociale contre laquelle Richelieu va lutter, c'est-à-dire la haute aristocratie. On va le voir effectivement lutter par exemple parce que le pouvoir est fragile à l'époque, notamment contre le frère du roi, Gaston d'Orléans, qui était d'autant plus ambitieux qu'il devait en principe succéder à son frère. Louis XIII n'a eu d'enfants, de garçons, en l'occurrence Louis XIV, qu'en 1638. Donc en toute cette période, en fait, Gaston d'Orléans se voit déjà roi.
Oui, Gaston utilisait ce qu'on appelle les grands du royaume pour ses complots, lui étant d'ailleurs toujours à l'abri, puisqu'il savait qu'en définitive, il ne lui arriverait rien de définitif, en quelque sorte, étant le frère du roi. Mais c'est vrai que ces grands du royaume, c'est un peu une résurgence des vieilles féodalités contre lesquelles la monarchie s'est imposée au fil des décennies, au fil des siècles, et en fonction d'ailleurs de la personnalité des plus grands rois. Et il y a effectivement un conflit très puissant entre Richelieu et les grands, qui n'est pas un conflit de classe en tant que tel, puisque Richelieu estime qu'il faut une aristocratie, mais il estime qu'elle doit obéir au roi. et qu'elle elle a certes des vertus, mais elle a surtout des devoirs. Ça aussi, c'est un débat de toute éternité.
Alors, cette aristocratie, Arnaud Tessier va lui en vouloir beaucoup. D'abord, on l'a entendu, parce qu'il a supprimé les duels. Alors, cela dit, elle ne respectait pas beaucoup. Mais alors, il va vraiment se montrer d'une brutalité, d'une fermeté contre tous les complots organisés par les aristocrates. Il y aura le duc de Montmorency, décapité en 1632, le marquis de Chalais en 1626, Saint-Marc, justement, très proche pourtant de Louis XIII, mais que Richelieu va faire exécuter parce qu'il avait comploté contre lui. Alors, c'est vraiment, on comprend pourquoi la noblesse ne l'aimait pas, la noblesse française.
Alors, c'est pas seulement d'ailleurs parce qu'il complotait contre lui, mais c'est parce que aussi ils étaient en lien avec les puissances étrangères. Donc, on était souvent très proche, même si ce n'était pas assumé en tant que tel aussi clairement dans la conscience du temps, on était quand même très proche de la trahison, au sens où on l'entendrait au sens moderne du terme. Mais Louis XIII était tout à fait sur cette ligne. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale pour comprendre la pensée de Richelieu, et qu'il dit à Louis XIII lorsqu'il écrit son testament politique à la fin de sa vie, qui est une sorte de recueil de conseils adressés au roi. Il dit « La faiblesse, le plus grand crime pour un homme d'État, c'est de ne pas décider et de ne pas être ferme quand il le faut. » Ceux-là même qui se sauveraient comme personne privée, il dit, se damnent comme personne publique. Il veut dire que quand on dirige un État, on n'a pas le droit d'être faible parce qu'on met en péril ceux dont on a la charge. Et donc, il y a des moments où il faut faire rouler quelques têtes. Et Louis XIII y a souscrit, finalement.
Alors, autre ennemi de l'État, selon Richelieu, les protestants dont il va faire abattre les murs des places fortes que leur avait accordées Henri IV.
Qui êtes-vous ?
Baron de Lombardement, envoyé spécial de Sa Majesté pour la démolition des fortifications de Loudun.
Votre serviteur, monsieur l'abbé.
Puis-je savoir pour quel motif Sa Majesté aurait ordonné la destruction de nos remparts ?
Loudun est un dangereux repère de huguenots. Il y en a deux fois plus ici que de bons catholiques.
Montrez-moi les dix signés de Sa Majesté.
Ne vous mettez pas de ces détails, monsieur l'abbé. Allez plutôt retrouver vos ouailles.
Toutes les fois que ressurgit la question d'unification de la France, on peut être certain qu'un personnage ambitieux veut en profiter pour prendre le pouvoir absolu. À leurs yeux, nos murs symbolisent ce qui nous reste encore d'autonomie. Richelieu déteste cela. Il essaie d'influencer le roi. Quand un homme veut aussi résolument régner que ce Richelieu, il sait justifier ses actions par n'importe quelle idée.
Celui est catholique qui baptise et tente, ne suit nulle hérétique, nulle erreur pestilente, mais en même doctrine et en un même esprit, à l'Église romaine professe Jésus-Christ. Qui a-t-il de meilleur qu'avouer Dieu en son cœur, qu'avouer Dieu en son cœur?
Qui est vrai chrétien et catholique, un chant de l'époque de Richelieu pour lequel les protestants, comme la noblesse, étaient des ennemis de l'État, Arnaud Tessier.
Oui, mais des ennemis de l'État, mais seulement sous cet angle, c'est-à-dire que Richelieu n'a jamais remis en cause, ni même eu jamais l'intention de remettre en cause la liberté religieuse. La tolérance religieuse n'a pas été remise en cause, même après le siège victorieux de La Rochelle.
Il faut rappeler, ce siège a duré très longtemps. Il a montré d'ailleurs un Richelieu homme de guerre aussi, parce qu'il a fallu un an pratiquement pour que ce siège soit levé, La Rochelle étant occupée par des protestants qui attendaient d'ailleurs une aide extérieure venue d'Angleterre.
Et c'est vrai qu'il n'était, il disait, on ne peut pas convertir les gens par la force, ce qui fera une différence énorme avec l'attitude qu'aura Louis XIV lorsqu'il révoquera l'édit de Nantes. Donc Richelieu disait, on ne peut pas convertir les gens par la force. Donc il n'était pas pour l'intolérance religieuse. En revanche, et d'ailleurs, il n'a pas porté atteinte à la liberté du culte. En revanche, ce qu'il n'acceptait pas, c'est ce qu'il appelait l'État protestant en tant que tel, c'est-à-dire le fait que les protestants aient des privilèges politiques qui leur permettent d'avoir des forteresses, des forces armées, d'être un État dans l'État, en réalité, pour employer une expression moderne. Et en ce sens, il voulait réduire la puissance des protestants. Mais il n'était pas du tout dans une idée qui consistait à détruire la religion protestante, parce qu'il savait que ça ne pourrait se faire que par la persuasion, par le débat. Et c'était un controversiste, d'ailleurs, de grand talent.
Au fond, s'il entreprend comme ça de détruire leurs forteresses, etc., de les persécuter, mais enfin pas du tout comme on le faisait à l'époque des guerres de religion, c'est qu'à ses yeux, dites-vous, au fond, il divise la France et conteste l'autorité du roi, comme ils ont divisé l'Église et contesté l'autorité du pape.
Ben, imaginez, faisons un parallèle, on m'accusera d'anachronisme, mais après tout, c'est des choses qui traversent l'histoire. Imaginons que un président de région, aujourd'hui, se constitue sa force armée, s'abrite derrière une forteresse et dise qu'il n'applique plus les lois de la République. Je pense qu'on ne trouverait pas ça tout à fait normal. Alors, je ne sais pas si on ferait un siège comme à La Rochelle. Mais enfin, c'est un peu ça, quand même, l'idée. Sachant qu'on est au XVIIe siècle, qu'on sort des guerres de religion et qu'il faut affirmer, évidemment, avec un peu plus d'énergie qu'on le ferait aujourd'hui, l'autorité de l'État et l'unité du royaume.
Donc, c'est au nom de l'État, plus que de la religion, qu'il les considérait comme des ennemis. D'ailleurs, il n'était pas proche de ce qu'on appelait le parti catholique, Arnaud Tessier.
Ah non, c'était même ses adversaires qui ont cherché à le déstabiliser, à le renverser, au point qu'il y a eu effectivement cet événement de la journée des dupes, où le roi, en 1630, a dû choisir entre Richelieu et sa mère, Marie de Médicis.
Il a choisi Richelieu.
Il a choisi Richelieu, oui. Il a choisi ce qui lui paraissait être l'intérêt de l'État et du pays, en fait.
Alors, il n'est pas du côté du parti catholique, ni d'ailleurs des États catholiques, comme l'Autriche et l'Espagne, auxquels Richelieu va même pousser le roi à faire la guerre en s'appuyant sur un Italien qui deviendra plus tard son successeur.
Quel âge avez-vous, signor Mazzarini ?
28 ans, Emina.
J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père.
Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph.
Vous savez convaincre, Giulio.
Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse.
Alors, de même que Louis XIII lui a délégué des pouvoirs considérables, Arnaud Tessier, Richelieu en a fait autant avec deux conseillers, on l'a entendu, Mazarin, il y a aussi le père Joseph. Sa politique, c'était aussi celle d'un entourage assez remarquable.
Qui était d'ailleurs assez proche d'ailleurs des intérêts de la papauté, parce que ce que Richelieu reprochait aux Habsbourg, c'est d'avoir une politique très cynique qui ne servait pas en réalité les intérêts de l'Église et du pape. Donc, s'il a aidé certains États protestants, c'était en fait assez compliqué. Il n'avait pas le sentiment d'aller en contre la papauté du tout. Et alors, il avait choisi... Alors, le père Joseph était à la fois un homme de foi et puis un diplomate que Richelieu utilisait, qui a fini par prendre une dimension mythique. Et Mazarin, c'était véritablement... Alors, plus vraiment un politique qu'un homme d'Église. Et je crois que Richelieu a eu le souci, comme souvent les grands hommes d'État, d'organiser sa succession. Et il avait vu que Mazarin était un très habile négociateur, qu'il parviendrait à pérenniser une bonne partie de son héritage par d'autres moyens. Et il est arrivé à le léguer littéralement à Louis XIII, qui, dès la mort de Richelieu, a désigné Mazarin comme son successeur. Ça, c'est quand même un grand talent que d'arriver à imposer son successeur.
Et un Mazarin, d'ailleurs, qui va poursuivre sa politique, notamment en politique étrangère, parce qu'on le voit, bien que catholique, bien que cardinal, eh bien, Richelieu va faire la guerre à l'Espagne, par exemple. Au fond, là encore, les considérations religieuses passent derrière l'importance qu'il accorde à l'État et à la grandeur de la France. Richelieu, aussi la grandeur de la France, c'est une politique, c'est sa politique.
Ben je pense que les deux s'emboîtent, c'est-à-dire pour lui, l'objectif religieux est à plus long terme. Il a le sentiment de servir les intérêts de l'Église et la cause de l'Église à long terme. Mais il y a la politique de court terme qui est que la France, le royaume de France, doit pouvoir s'affirmer en Europe et assurer ses prérogatives. Donc je ne crois pas qu'il y ait de contradiction entre les deux. Et il jugeait encore une fois la politique des Habsbourg très cynique et finalement totalement décrochée des intérêts religieux. On a reproché finalement à Richelieu une sorte de machiavélisme qui était peut-être plus le fait de ses adversaires en réalité.
Alors ce qu'on lui reproche aussi, c'est que pour faire cette guerre, il faut bien sûr la financer. Et la financer comment? Évidemment par l'impôt. Et ce qui est à l'origine de très importantes révoltes qui vont avoir lieu se produire à la fin du règne entre guillemets de Richelieu, les croquants en 1636, les nu-pieds normands en 1639. Et alors là, des révoltes réprimées avec une telle violence, c'est vraiment ce qu'on a retenu, ça a contribué à cette légende noire d'Henri Richelieu, extrêmement brutale quand il le fallait.
Elles ont été réprimées sévèrement parce que c'est un petit peu comme la politique de salut public à toute époque. À partir du moment où le pays est en guerre, on ne tolère pas les révoltes internes. Et c'est vrai qu'elles ont été réprimées sans faiblesse. Mais il faut savoir que Richelieu s'est attiré aussi les foudres du clergé français par sa politique fiscale. Parce que pour financer la guerre, ce n'est pas seulement le peuple, entre guillemets, qui a souffert, mais aussi les grandes, l'Église. Et donc, je crois qu'il a en réalité prélevé un petit peu partout et avec la même énergie.
Alors, on comprend la légende noire qui a duré après lui, en oubliant souvent d'ailleurs son œuvre, le redressement de la France, de son armée, création de l'Académie française et de la presse même, avec la Gazette de Théophraste Renaudot. Mais là encore, pour Richelieu, c'était pour mettre les journaux au service de sa politique.
Notre bon Théophraste est venu me voir pour m'entretenir d'un dessin qu'il a formé et qui...
Si c'est de la Gazette qu'il s'agit, il m'en a touché deux mots. Et je me proposais d'en parler à votre éminence.
Ah !
Oui, la chose vaut en effet qu'on la retienne. Tant elle offre davantage pour le public et pour l'État.
Avec tous ces nouvellistes qui nous attaquent sous le manteau, ces feuilles qui circulent colportant l'injure et le mensonge, il serait profitable que parût au grand jour une gazette qui rétablirait la vérité, et rassurant qu'elle fût publiée par quelqu'un de nos amis.
Alors on le voit là encore, Arnaud Tessier, quand Richelieu encourage Théophraste Renaudot à créer le premier journal français, la Gazette, c'est pas au nom de la liberté de la presse, c'est au fond pour la contrôler dès le début, pour qu'elle pour que l'État la garde sous sa main.
C'était un maître de la communication. Mais en plus, il aimait écrire. Il aimait écrire. C'était un rhétoricien remarquable. Un grand controversiste. Donc, il avait la passion de ça. Vous savez qu'il a écrit, ou en tout cas inspiré des pièces de théâtre qui étaient très proches du style de Corneille. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très dominé par cette idée que le langage, la maîtrise de la langue et la maîtrise du raisonnement et de la dialectique sont un instrument de pouvoir. En cela, il était très moderne, dans le bon sens du terme, parce qu'encore une fois, c'était quand même au service d'une vision qui était extraordinairement construite.
La maîtrise de la langue, au point d'ailleurs d'être également à l'origine de la comédie, de l'Académie française en 1635, Arnaud Tessier.
Oui, la langue était pour lui un instrument d'unité. De clarification, c'était un élément qui pouvait permettre d'assurer des bases plus solides à la grande construction politique dans laquelle il s'était engagé et qui n'a pas pu achever, évidemment, puisque en réalité, son pouvoir s'étend sur très peu d'années, il ne faut jamais l'oublier.
C'est pas le moyen aussi de mettre la main sur une littérature, sur des écrivains qui pouvaient éventuellement se dresser contre lui?
C'est toujours ambigu.
En les rassemblant dans l'Académie française.
C'est vrai que le rapport entre le pouvoir politique et la littérature est toujours ambigu. Mais il aimait véritablement, c'était un homme qui avait une bibliothèque fabuleuse, qui aimait lire, qui avait une culture prodigieuse et qui écrivait beaucoup, puisque jusque dans les derniers jours de sa vie, alors qu'il ne pouvait plus tenir une plume, il continuait de dicter des ouvrages de théologie à ses secrétaires. Donc je pense quand même, outre l'objectif de pouvoir, il y avait une sincérité dans l'attachement qu'il manifestait à l'écriture et à la mise en forme des idées.
Alors, au service de l'État, il s'en est également beaucoup servi. On sait qu'il est mort avec une fortune absolument considérable. Je crois que c'était 20 millions de livres. C'était énorme pour l'époque.
Qu'il a retourné à l'État en partie, d'ailleurs. Oui, c'était un grand personnage, parce que c'était le style de l'époque. C'était un grand personnage. Il avait un grand train de maison, une bibliothèque fabuleuse. Et parce que, pour lui aussi, l'incarnation du pouvoir, c'était aussi une certaine majesté, une certaine puissance qui devait s'afficher. À une époque, d'ailleurs, où la cour n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite, la cour du roi. Donc, ça faisait partie du personnage. C'était pas... Il était collectionneur, évidemment, au sens où le sera Mazarin. Il aimait les beaux objets. Mais il y avait toujours une intention politique derrière, comme quand il a fait construire son château de Richelieu, tout ce domaine assez extraordinaire qui était conçu de manière totalement géométrique. Je crois que c'était quelqu'un qui était dominé par l'idée qu'il y avait un dessein derrière, plus que le fait de profiter des biens matériels dont il ne profitait pas, puisque son château de Richelieu, il n'y a jamais vécu, après l'avoir fait construire et l'avoir conçu dans le moindre détail.
Deux autres bâtiments aussi que l'on connaît bien à Paris, hein, le Palais Royal, qui s'appelait le Palais Cardinal, également la Sorbonne, hein, qu'il a fait reconstruire. Il n'a pas créé l'université, c'était antérieur, mais pratiquement tous les bâtiments que l'on voit aujourd'hui sont déconstruits par Richelieu.
Et vous voyez toujours ce lien avec les choses de l'esprit. Enfin, il y avait toujours une densité derrière qui allait au-delà. Ce n'était pas un homme qui jouissait du pouvoir au sens où on l'entendrait aujourd'hui. C'était un homme pour qui le pouvoir était un moyen d'accomplir un destin sur Terre qui avait un sens.
Alors, il a laissé un héritage. S'il a laissé un héritage, c'est aussi un héritage politique, puisqu'il a inspiré, vous le rappelez, Arnaud Tessier, bien sûr, la politique de Mazarin, d'une certaine manière, celle de Louis XIV aussi, hein, la puissance, la toute-puissance de l'État. Ben c'est un héritage de Richelieu. Mais alors, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous dites que, au fond, après Richelieu, il y a des hommes qui s'en sont inspirés, même en République, hein, Gambetta sous la Troisième, le général de Gaulle sous la Cinquième.
Alors je crois qu'il faut bien s'entendre d'ailleurs, ce qu'il appelle l'État, ce n'est pas l'État tel qu'on l'imagine aujourd'hui, l'État-providence du XXe siècle, c'est-à-dire une administration pléthorique, l'État intervenant dans tous les secteurs. L'État de Richelieu est très léger, dans ce sens-là, l'État d'Ancien Régime aussi. Ce qu'il a mis en valeur, c'est cette énergie que, pour lui, l'intérêt général, qui doit porter l'intérêt général, l'intérêt commun, le bien public, peu importe comment on l'appelle, qui doit être porté par une volonté d'État, par une unité de l'État. Et je crois effectivement que c'est une tradition qui a eu ses héritiers. Vous avez cité Bonaparte, des grandes figures qui d'ailleurs ont été peu appréciées du milieu politique comme Gambetta ou des hommes comme De Gaulle, c'est-à-dire des personnages qui pensent qu'il y a une histoire qu'il faut porter et que gouverner un pays, ça n'a un sens que si on incarne une unité, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et si on diffuse quelque chose qui est l'énergie du pouvoir. Pour Richelieu et pour ses successeurs, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui naît d'une sorte de convergence, de toute petite puissance qui s'additionne ou se concurrence. C'est quelque chose de fort, de grand, qui entraîne.
Oui, mais dont on se méfiait. Il y a une tradition française qui veut qu'on se méfie de l'État. Et au fond, c'est la tradition inverse, celle de Richelieu, et qu'on retrouve effectivement chez De Gaulle.
Alors, De Gaulle était dans la tradition de Richelieu, hein,
oui, tout à fait.
L'État. Et par contre, mais oui, c'est une tradition qui a toujours été mal vue en France, notamment, il faut bien le dire, pas tellement de ce qu'on appelle le peuple, mais d'un certain nombre d'élites sociales pour qui le pouvoir est quelque chose qui s'inscrit contre, quelque chose qui se partage par de subtils équilibres, qui se répartit.
Merci Arnaud Tessier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre « Richelieu, la puissance de gouverner », publié chez Michalon dans la collection « Le bien commun », qui est une réflexion sur les principes politiques de Richelieu plus qu'une biographie. Pour en savoir plus justement sur la biographie, sur la vie de Richelieu, je recommande la biographie de Françoise Hildesheimer aux éditions Flammarion. À lire également la correspondance du cardinal de Richelieu, établie et présentée par Marie-Catherine Vignal sous les Roues, publiée chez L'Harmattan. Et puis vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry, et Les Trois Mousquetaires de Bernard Bordery, tous deux édités chez René Château Vidéo, Les Diables de Ken Russell, Mazarin de Pierre Cardinal, et enfin un extrait de la dramatique radiophonique Les Innocentes Inventions de Théophraste Renaudot. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ludovic Asselot et Olivier Daligo. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, et pour mieux comprendre ce qui s'y passe depuis 2003, le Darfour.